Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
L'amour. L'amour est la grande affaire de notre vie, le grand mystère de notre vie, sa signification ultime. Aimer, être aimé, c'est ce à quoi nous aspirons, c'est en même temps ce que nous manquons si souvent. Méditons avec saint Augustin son idée de l'amour, sa découverte de l'amour. Et voyons aussi de quelle manière il lui a fallu des années, une expérience douloureuse et un peu tragique, pour comprendre la nature de l'amour. Nous commencerons par un rappel de la doctrine de Platon, dans Le Banquet. Pour Platon, ce qu'il appelle en grec « eros » est une tension. Eros est tout tendu vers ce dont il est épris. Et ce dont il est épris, c'est de la beauté. L'enseignement de Platon et de Socrate, ou de Diotime en fait, c'est une femme qui enseigne Socrate et qui fait connaître à l'homme ce qu'est l'amour. Diotime donc nous dit que aimer, c'est aimer la beauté. Aimer, c'est être épris de la beauté. L'amour est donc une tension de l'âme humaine vers quelque chose qui s'appelle la beauté, qui n'est pas une chose, qui n'est pas une personne. Augustin connaît bien la tradition platonicienne, et cependant il la repense en entier, entièrement, en découvrant que l'amour n'est pas exactement une tension vers, ou plutôt que c'est bien une dimension de l'amour, mais que ce n'est pas tout de l'amour. Le concept qu'Augustin emploie, c'est en latin le concept de caritas, qui correspond en grec à la notion d'agapé. Si Eros est une tension, une ouverture vers, l'agapé est une relation, et plus précisément une union entre des personnes. Ce qui veut dire que c'est Augustin qui, en lisant l'évangile de Saint Jean, en méditant les épîtres de Saint Paul notamment, a découvert la nature de l'amour. Et ce qui veut dire que le concept de l'amour qui est trivial aujourd'hui, en fait, nous vient d'Augustin. Quel est ce concept? Eh bien, c'est l'idée que aimer, c'est aimer quelqu'un. Que l'amour, c'est ce qui nous met en relation. C'est une forme de relation entre deux personnes. Voilà. Voilà la grande découverte d'Augustin. L'agapé, c'est une union entre des personnes. Sauf que, Augustin étant un penseur chrétien, ce qu'il nous fera voir, c'est que la véritable finalité de l'amour, et en même temps l'origine de l'amour, c'est Dieu. Et le grand texte fondateur à ce sujet, c'est bien sûr la première épître de Saint Jean, « Dieu est amour ». Augustin a écrit un commentaire magnifique dont on ne peut que recommander la lecture, commentaire magnifique de cette épître de Saint Jean, « Dieu est amour ». Augustin lui-même a mis du temps à comprendre ce que cela veut dire, « Dieu est amour ». C'est-à-dire que l'amour est bel et bien la vie même de Dieu et l'essence même de Dieu. Dieu n'est pas quelque chose et en plus il a l'amour. Dieu est l'amour et Dieu est amour parce qu'il est communion intime des trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit de sainteté. Augustin, en méditant, en considérant et en méditant la Sainte Trinité, éclaire et comprend mieux l'amour humain. Puisque Dieu est amour et que Dieu est Trinité, Augustin comprend que l'amour a une forme ternaire. L'amour est une union entre des personnes. Il faut donc maintenant regarder cet amour dans ses différentes manifestations, ses différents niveaux, et en partant de l'amour humain, arriver à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui, pour saint Augustin, est premier. Augustin commence par comparer l'amour à la pesanteur pour un corps. Vous lâchez une pierre, la pierre tombe. C'est-à-dire que la pierre tombe d'elle-même. Il y a une spontanéité dans la pierre, une force inhérente à la pierre qui la fait tomber. Eh bien, pareillement, il y a dans l'âme humaine une spontanéité, une force qui la fait se mettre en mouvement. Et cette force, c'est l'amour. Selon une formule célèbre que certains connaissent, Augustin écrit « Mon poids, c'est mon amour. Je suis emporté par mon amour partout où je suis emporté. » Voilà, donc de même qu'une pierre est emportée par son poids, se meule par son poids, l'âme humaine se meut de par son amour. Il faudra voir cependant que la façon dont la pierre tombe n'est pas la même que la façon dont l'amour nous meut. Et si nous gardons la métaphore, nous verrons que l'amour peut nous faire tomber, mais qu'il peut aussi nous élever. Alors, Augustin, après avoir noté une ressemblance entre la pesanteur et l'amour, note la différence. La différence, c'est que la pierre tombe, mais par un mouvement nécessaire, par un mouvement inévitable, et qui ne relève en rien d'un libre arbitre. Tandis que le mouvement inhérent à l'âme humaine, qui s'appelle l'amour, c'est le mouvement propre de l'âme. C'est donc un mouvement libre. Ce qui veut dire que l'âme peut aimer, peut s'adonner à l'amour, se lancer dans l'amour, mais elle peut aussi ne pas s'y adonner. Et ensuite, elle peut aimer de différentes manières. Si la pierre ne peut pas ne pas tomber, l'âme humaine n'est pas en situation telle qu'elle ne pourrait pas ne pas aimer Dieu et qu'elle ne pourrait pas ne pas aimer autrui. L'âme, si elle ne le veut pas, n'est pas entraînée à abandonner les biens supérieurs et à aimer les inférieurs, comme le note saint Augustin. Donc pour comprendre la nature de l'amour humain, il faut introduire quelque chose qui n'est pas dans la pierre, dans le caillou, qui est la liberté. La capacité qu'a l'âme d'aimer de par elle-même, d'aimer librement et d'aimer parce que l'intelligence l'éclaire sur ce que c'est qu'aimer et sur la personne qu'elle aime. Augustin montre qu'il y a deux manières donc pour l'âme d'aller, et à la différence de la pierre justement. La première manière, ce sera une manière qui la fera tomber, la seconde manière, c'est ce qui la fera monter. Je lis un petit passage, c'est un discours sur les psaumes de saint Augustin. Augustin écrit ceci. « Tout amour monte ou descend. L'amour du bien nous élève à Dieu, comme l'amour du mal nous entraîne à l'abîme. » Il y a donc deux grandes formes d'amour. L'amour, s'il est comparable à la pesanteur, n'est pas comparable à la pesanteur parce, dans la mesure où il relève de la liberté. Et donc l'amour peut monter ou descendre. C'est quelque chose de dynamique. L'amour ne tend pas nécessairement à Dieu parce qu'il y a liberté. Il y a plusieurs possibilités dans l'amour. Par bonheur aussi, l'amour ne tend pas nécessairement au mal. L'amour du bien nous élève à Dieu, mais il y a aussi dans l'âme humaine la possibilité d'aimer le mal. Tout le monde connaît un texte célébrissime dans lequel Augustin dit « Deux amours ont donc fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité terrestre, céleste. L'une dans ses princes ou dans les nations qu'elle subjugue est dominée par l'envie de dominer. Dans l'autre, ils se rendent service mutuellement dans la charité. » Voilà. Il nous faut donc découvrir la nature de la vraie charité, puisqu'il y a deux sortes d'amour. Il y a un amour de soi aveugle qui cache et qui est un mépris de Dieu, et c'est l'amour qui bâtit la cité terrestre. Et il y a un autre amour qui est l'amour de Dieu qui passe par, non pas exactement l'effacement de soi, mais la relativisation de soi, la secondarisation de soi, puisque je ne suis pas le principe de l'amour, mais celui qui reçoit l'amour et qui a à le communiquer à son tour. L'autre point capital de la relation d'Augustin, de la compréhension d'Augustin à l'égard de l'amour, c'est l'idée de la relation, précisément. Augustin comprend que l'amour relève d'une forme trinitaire et d'une logique trinitaire. Je cite un passage, c'est dans le traité de la Trinité. L'amour est amour de celui qui aime, et par l'amour, quelque chose est aimé. Voici qu'ils sont trois, celui qui aime, et ce qui est aimé, et l'amour. Qu'est-ce donc que l'amour, sinon une certaine vie qui unit deux choses, ou qui aspire à les unir, à savoir, celui qui aime et ce qui est aimé. Nous retrouvons là la méditation d'Augustin à l'égard de la Sainte Trinité, ce qui lui fait comprendre que l'amour est un lien, que l'amour est une union, ou au minimum une aspiration à l'union, une aspiration au lien. Et ce qu'Augustin donc découvre, c'est que quand il y a amour, il y a trois termes. Il y a celui qui aime, ceux qui l'aiment, et le lien qui unit le premier au deuxième. Ce qui veut dire, dans les termes de la Trinité pour saint Augustin, le Père, celui qui aime, le Fils, qui est l'objet de sa dilection, et le lien d'amour entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit-Saint. On sait que dans la doctrine chrétienne, l'Esprit-Saint est l'amour en personne, l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père. Quand il y a amour, donc il y a nécessairement trois termes, et c'est ce qui permet à Augustin de forger une expression tout à fait étonnante quand il parle de l'amour de l'amour. Tout amour est un amour de l'amour.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
L'amour est un amour de l'amour. Qu'est-ce que cela signifie? En vérité, il y a ici plusieurs figures. Et Augustin explore les figures négatives, les figures perverses de cet amour. Ce qui veut dire que aimer n'est pas nécessairement bon, n'est pas ipso facto une excellente chose. Par exemple, lorsqu'il se remémore le vol de poire qu'il avait commis à l'âge de 16 ans, Augustin souligne finement qu'il avait aimé le péché. Il peut donc y avoir un amour du péché, il peut y avoir un amour de se perdre, le plaisir pris à la perte de soi. Donc cela veut dire ici qu'il y a un amour perverti qui est l'amour capable de se perdre soi-même. Si la pierre tombe nécessairement, la pierre ne peut pas d'elle-même se détruire elle-même. L'amour humain est un amour qui peut se pervertir et qui peut se renverser en haine de soi, puisque nous pouvons ici aimer notre déchéance, aimer périr. C'est ce qu'Augustin a écrit, « J'ai aimé périr ». Donc il y a ici un amour tout à fait excessif, tout à fait délirant, un amour perverti. Augustin découvre au livre 2, au livre 3 des Confessions, un autre amour perverti, qui est encore un amour de l'amour, mais la formule « amour de l'amour » a plusieurs significations. Il se rappelle sa jeunesse, et il se rappelle qu'au cours de sa jeunesse, il était épris de nombreuses jeunes filles et qu'il était conquérant, chasseur de jeunes filles, pour parler ainsi. Or, finement, il note, et cela c'est rétrospectif, c'est quand il se le rappelle adulte qu'il le note, il dit « Je n'aimais pas encore, mais j'aimais aimer, j'aimais à aimer ». Qu'est-ce que ça veut dire « j'aimais à aimer » ? Cela veut dire que Augustin comprend après coup que l'amour qu'il a expérimenté, qu'il a éprouvé dans sa jeunesse, n'était pas un véritable amour. Parce que c'était un amour sans autrui, un amour sans que quelque jeune fille véritable, précise, soit en jeu. Que signifie l'expression « je n'aimais pas encore » et « j'aimais à aimer » ? Cela veut dire que Augustin aimait bien quelque chose. Il tenait telle jeune fille dans ses bras, il l'embrassait, etc. Il le dit bien, il aimait jouir de son corps. Mais pourquoi ce n'était pas de l'amour? Parce que ce dont Augustin était amoureux, c'était de soi. En ce sens que ce dont il voulait jouir, c'était de l'état dans lequel une certaine jeune fille ou certaines jeunes filles le mettaient. Donc le « j'aimais aimer » veut dire « j'aimais être amoureux ». L'objet de mon amour, c'était non pas une jeune fille, mais moi-même, l'état dans lequel telle ou telle jeune fille me mettait. Donc on voit donc là un amour sans autrui, un amour qui consiste à jouir de soi seul, et c'est en cela que c'est bel et bien une impasse. Mais Augustin mettra bien sûr des années avant que de le comprendre. Nous voyons donc des figures perverses de l'amour. Et Augustin a bien montré aussi, a bien compris, la nécessité d'une guérison. Ce qui veut dire que, puisqu'en fait nous avons commencé par, et nous commençons souvent par ces figures perverties de l'amour, il faudra guérir notre âme et il faudra découvrir la charité. Augustin le dit explicitement dans un discours sur les psaumes, en écrivant que l'amour nous fait subir une certaine mort. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut renoncer à ce faux amour. Il nous faut nous apercevoir que nous étions non pas aimant quelqu'un ou quelqu'une, mais que c'était nous-mêmes que nous aimions, à savoir l'état dans lequel nous nous trouvions. Et il faut donc mourir à soi, mourir à ce faux amour, pour renaître au vrai amour. Donc ça veut dire que le chemin de l'âme n'est pas un chemin paisible qui nous fait tranquillement monter un escalier de la forme d'amour inférieur à la forme d'amour supérieur, puisqu'en fait le chemin de l'âme nous fait passer par le faux amour et par l'amour du vieil homme, et qu'il faut nous arracher au vieil homme pour renaître au véritable amour. Et ce qu'Augustin aussi a découvert et qui est extrêmement profond, c'est que je ne peux découvrir le véritable amour qu'en me tournant vers Dieu et qu'en contemplant Dieu qui est l'amour, en tant qu'il est cette trinité des personnes. À partir de là, Augustin se demande ce que signifie aimer Dieu. Si Dieu est amour, aimer Dieu, c'est aimer l'amour. Mais nous voyons maintenant que la formule « l'amour de l'amour » prend une nouvelle signification. Pour l'adolescent Augustin, aimer, aimer, c'était s'aimer soi-même amoureux. Maintenant, l'amour de l'amour, c'est aimer l'amour et c'est aimer un autre que soi en se recevant de cet autre. Mais Augustin se demande, il se pose une excellente question, il se demande, quand j'aime Dieu, qu'est-ce que j'aime? Qui est-ce que j'aime? Et là, pour nous éclairer, il a une très belle image, qui est l'image qu'il donne dans son commentaire de la première épître de Saint Jean, « Dieu est amour ». C'est l'image de la bague que le fiancé offre à sa fiancée. Un fiancé offre à sa fiancée, en témoignage d'amour, en signe de son amour, une alliance. De son alliance, donc une alliance, c'est-à-dire une bague. Mais que devient la fiancée si elle préfère la bague au fiancé? Ce qui était le signe et le lien de l'amour est devenu l'unique objet de son amour. Et donc Augustin veut nous faire comprendre par là que ce qui est donné par le fiancé, et aussi beau que cela soit, n'est pas le fiancé lui-même. Que veut-il dire par là? Eh bien, qu'est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne le monde, la vie, le soleil, comme il le dit. Et Dieu ne nous interdit pas d'aimer le soleil, la lune, l'amitié, l'amour, au sens humain, quotidien. Mais le danger, c'est que nous risquons d'aimer tout cela à la manière dont la fiancée dont je viens de parler aime la bague, c'est-à-dire en oubliant le donateur. Nous sommes capables d'aimer le monde en oubliant celui qui nous a donné le monde. Nous sommes capables de nous aimer nous-mêmes et d'aimer la vie en oubliant celui qui nous a donné nous-mêmes à nous-mêmes en nous donnant la vie. Augustin l'écrit donc dans le même commentaire, « Dieu ne t'interdit pas d'aimer ces choses, mais de les aimer jusqu'à y trouver ta béatitude. Donne-leur approbation et louange, mais afin d'aimer le Créateur. » Donc l'attitude saine de la jeune fille, c'est bien sûr de se réjouir de la bague qu'elle a reçue du fiancé, mais comme simple signe, et c'est donc d'aimer le fiancé, et non pas seulement la bague. Augustin en tire un enseignement tout à fait prodigieux, qui aussi est très éclairant pour l'homme et pour la prière quotidienne de l'être humain. En montrant qu'il y a deux manières d'aimer Dieu. Que signifie aimer Dieu? Telle est la question. Nous pouvons aimer Dieu en aimant les cadeaux qu'il nous fait, en aimant les dons dont il nous comble. Par exemple, un homme dans la détresse peut prier pour recevoir la santé, pour recouvrer la santé. Un homme dans le malheur peut prier pour aspirer au bonheur, etc. À ce moment-là, nous n'aimons pas Dieu en vérité. Nous aimons les dons qu'il nous fait. Nous aimons, comme la fiancée, nous aimons la bague qu'il nous a confiée. Et nous oublions le donateur dans la jouissance de sa donation. Cela est donc, pour Augustin, une impasse. Le véritable amour ne consiste pas à demander à Dieu quelque chose, mais alors quoi? Le véritable amour consiste à demander à Dieu, Dieu lui-même. Je cite un passage d'Augustin, c'est encore dans les discours sur les psaumes. « Autre chose est de chercher quelque chose dans le Seigneur et autre chose de chercher le Seigneur lui-même. Ne va donc demander à Dieu rien qui ne soit Dieu, mais cherche Dieu lui-même et il t'exorcera. Et tu parleras encore qu'il te dira « Me voici ». Qu'est-ce à dire « Me voici » ? Voici que je suis présent, que veux-tu ? Quelle est ta demande ? Toute autre chose que je puisse te donner est moins que moi, mais possède-moi, jouis de moi, étreins-moi de ton amour, tu ne le peux encore dans tout ce que tu es, touche-moi du moins par la foi et tu t'attacheras à moi. » Nous voyons donc ici deux voies qui s'ouvrent à nous. La première qui est de prier Dieu en lui demandant d'être comblé de tel ou tel bien qui nous fait défaut maintenant. La deuxième est de prier Dieu en lui demandant de venir lui-même en personne. On pourrait dire ici que le désir de Dieu, c'est bien sûr de nous donner la vie, la santé et tous les biens finis, temporels, mais que le désir le plus secret de Dieu, le plus profond, c'est de se donner en personne. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? La merveille, c'est que Dieu donne Dieu. C'est Saint Jean déjà qui nous le faisait pressentir quand il dit à la Samaritaine « Si tu savais le don de Dieu ». Et l'illusion ici serait de croire que le don de Dieu, c'est le don de la fontaine, le don de la source, de l'eau, au sens simplement trivial. La source d'eau vive, c'est Dieu lui-même. Le don de Dieu, c'est Dieu. Augustin, dans tous ses ouvrages, fait cette distinction que nous sommes en train d'examiner et rappelle que, justement, nous faisons fausse route chaque fois que nous nous contentons de demander à Dieu un certain bien. Et parce que par là, nous oublions de demander à Dieu, Dieu lui-même. C'est pourquoi, d'ailleurs, il tense l'avare en montrant que l'avare, en fait, se trompe dans l'objet de son désir et la fin de son désir. L'avare voudrait, par exemple, posséder tout l'or du monde. Mais Augustin se moque en lui montrant que son désir est tout petit. Et il ne l'invite pas à diminuer son désir, mais à l'augmenter. En lui montrant que si tu désires l'or du monde, tu désires peu. Désire davantage. Ouvre ton désir et désire Dieu lui-même. Parce que en désirant Dieu lui-même, tu répondras au désir de Dieu lui-même, qui est de venir te visiter, de venir habiter chez toi. Et un autre point capital, c'est qu'Augustin aussi compare la manière dont le soleil dispense sa lumière à la manière dont Dieu se donne. Le soleil dispense sa lumière de manière uniforme pour tout le monde. En revanche, quand Dieu se donne, il se donne dans le secret et il se donne d'une manière unique. Je cite encore un texte d'Augustin. « C'est de Dieu que tu tiens tout. C'est lui qui t'a donné la vie, qui te donne le soleil, qui donne la pluie, qui donne les fruits, qui ouvre les sources, qui donne la vie et le salut, et tant de consolation. Lui qui te réserve ce qu'il ne donnera qu'à toi seul. Et qu'est-ce qu'il te réserve, si ce n'est lui-même ?» Fin de citation. Voilà un texte admirable. Dieu réserve à chacun d'entre nous quelque chose qu'il ne donnera qu'à chacun, singulièrement. Dieu donc ne répand pas son amour comme le soleil répand sa lumière. Dieu se donne singulièrement à chacun. Il y a quelque chose qu'il ne donnera qu'à toi seul. Quelque chose qu'il te réservera d'une manière unique, c'est lui-même. De ce point de vue-là, la Bible témoigne de cette singularité. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, Saint Paul, Saint Jean, chacun a été affecté d'une manière unique par l'amour de Dieu. Chacun est un témoin unique et quelqu'un qui reçoit de manière singulière cette donation de Dieu, cet amour de Dieu. Nous sommes là au sommet de la pensée de saint Augustin. Cette idée que le désir le plus intime et le plus secret de Dieu, c'est de se donner à chacun de manière singulière. Augustin se demande aussi « Qu'est-ce que j'aime quand je t'aime ?» et il découvre la doctrine de ce qu'on peut appeler, ce qu'on a pu appeler avec Origène, la doctrine des sens spirituels, en montrant que quand j'aime Dieu, je n'aime pas la beauté d'un corps, je n'aime pas le charme d'un temps, le matin par exemple, l'aurore, je n'aime pas l'éclat de la lumière, ni une mélodie, ni la suave odeur des fleurs, des parfums, etc. Ce n'est pas cela, dit-il, quand j'aime mon Dieu. Il le dit dans les Confessions au livre 10, chapitre 6. Et pourtant, il ajoute, quand j'aime mon Dieu, j'aime une certaine lumière, une certaine voix, un certain parfum, un certain aliment, et même une certaine étreinte. Lumière, voix, parfum, aliment, étreinte de l'homme intérieur qui est en moi. Voilà, c'est cela que j'aime quand j'aime mon Dieu. Ça veut dire que nous avons cinq sens. Le sens du goût, de l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. Et ces cinq sens nous mettent en contact avec les choses qui sont autour de nous, les corps. Mais nous avons pareillement cinq sens spirituels qui touchent, qui respirent, qui voient, qui écoutent Dieu lui-même. Et chaque âme humaine est une certaine manière d'être affecté par l'unique.